France Culture.
Se expone como vuestro padre.
Dans la plainte, il est spécifié comment votre père m'a fait subir des viols de façon répétitive pendant plus de 20 ans.
Quería saberlo, vos.
Tu voulais savoir, et pas.
Ya lo sabes.
Et ben, ça y est. Maintenant, tu le sais.
Ama, estabais casados.
Maman, vous étiez mariés, que je sache. D'ailleurs, vous l'êtes toujours.
Si.
Oui, alors, bien sûr.
Et donc?
Et donc? Il le faisait en étant marié.
Quoi? Il te forçait?
Si. Oui.
Te cogía, te agarraba.
Il te tenait, il t'empoignait.
Non.
Donc il te forçait sans te tenir, c'est ça?
Oui.
Yo no quería.
Moi, je voulais pas.
Et le decías que no querías.
Et tu lui disais que tu voulais pas.
Él sabía que yo no quería.
Il le savait que je voulais pas. Ça se voit, ça.
Et pourquoi tu lui disais pas? Pourquoi tu refusais pas?
Chérie, c'est parce que j'avais peur de ton père.
Maman. Comment papa pouvait savoir que t'avais pas envie si tu lui disais rien? Comment il pouvait savoir que tu voulais pas?
C'est difficile de croire ce que ta mère te dit.
C'est tellement difficile.
Attends, c'est si difficile.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des rencontres de Pétrarque, et à vous, spectateurs et spectatrices présents dans la cour du rectorat de Montpellier, pour ces débats en direct et en public sur le thème « Réapprendre à se parler ». Quatrième temps ce soir, après « Ne sait-on plus se parler ?» lundi, une parole corsetée ou débridée mardi, qu'est devenu le discours politique hier, place aujourd'hui à la parole individuelle, intime, à celle qui a du mal à être dite et surtout à être entendue, comme on le constate dans cet extrait de la récente série diffusée sur Arte, Querer. Cette voix-là, depuis quelques années, fait l'objet d'une intense attention. Je veux parler des récits portés par les victimes de violences en tout genre. On a beaucoup dit, depuis l'émergence du mouvement MeToo en 2017, que la parole s'était libérée. Mais si les langues se sont déliées, est-ce pour autant un processus libérateur? Dire ce que l'on a subi permet-il toujours d'aller mieux, d'avancer, de se reconstruire? Dans quel cadre et à quelles conditions le fait de s'exprimer peut-il soulager? Bref, parler aide-t-il à se libérer? C'est le sujet de notre débat, avec sans doute un maître mot ce soir, l'écoute. Un maître mot et deux invités. Muriel Salmona, bonjour à vous.
Bonjour.
Psychiatre, fondatrice et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous êtes également membre de la commission d'enquête indépendante sur les violences sexuelles et physiques de Notre-Dame de Bétaram. Vous êtes l'autrice de livres qui ont fait date, en particulier le livre noir des violences sexuelles. Le dernier date de mai 2025. Il s'intitule « Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels ». Il est apparu chez Duno, comme le premier d'ailleurs. Et je précise que vous intervenez ce soir, Muriel Salmona, des deux côtés, vous incarnez les deux côtés de la parole, en quelque sorte, puisque vous avez aussi été victime de violences sexuelles quand vous étiez enfant et adolescente. Vous vous en êtes exprimée il y a maintenant quelques années. Et à vos côtés se trouve Anne Bouillon.
Bonsoir.
Bonsoir. Avocate, spécialiste, avocate pénaliste d'ailleurs, spécialiste dans la défense des victimes de violences et en particulier dans la défense des femmes victimes de violences. Vous êtes, vous, l'autrice d'un livre intitulé « Affaire de femmes, une vie à plaider pour elles ». C'est une parole de combat parue en 2024 aux éditions de l'Iconoclaste. À toutes les deux, pourquoi parler, c'est indispensable? Qu'est-ce que ça fait de verbaliser un traumatisme? Est-ce que c'est un premier pas vers, d'ailleurs, vers quoi? Vers une reconstruction? Je ne sais pas si le mot est juste. Muriel Salmona?
Alors, c'est avant même une reconstruction. Parler, c'est indispensable le plus souvent déjà pour être protégé, pour être entendu, bien entendu, pour être soigné, pour être pris en charge. En fait, c'est indispensable pour faire valoir ses droits. pour pouvoir porter plainte. C'est indispensable pour qu'il y ait une véritable reconnaissance de ce qui s'est passé, pour que la justice passe et qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Souvent, les victimes disent que, même si c'est extrêmement difficile pour elles de parler, que c'est très violent, que tout s'y oppose, elles le font aussi parce qu'elles veulent que ça s'arrête. Elles veulent qu'il n'y ait plus de victimes. Donc, mais le premier temps, ce que permet la parole, s'il y a une écoute, s'il y a une prise en compte, s'il y a une reconnaissance des faits, pas comme ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qui permet une protection. Or, la protection, c'est absolument nécessaire quand on a subi de très graves atteintes à son intégrité physique et mentale, et de très graves violations des droits humains. Ils font partie des violations les plus importantes.
Dans le domaine juridique, Anne Bouillon, est-ce que nommer, c'est déjà faire exister ?
Oui, et j'ai envie de dire que c'est le premier acte d'émancipation et de réappropriation de soi-même. C'est-à-dire que lorsque l'on évolue dans un système qui pourrait être qualifié presque de fascisant, où toute liberté est déniée au sujet, et où les femmes, moi, que je défends, sont réduites à l'état d'objet, et même plus à l'état d'objet pensant, le fait de se réapproprier une parole et de l'extérioriser, c'est le premier acte audacieux, courageux, qui permet d'entrevoir un avenir possible, et c'est un acte presque révolutionnaire, en ce que cet acte-là de parole vient rompre le contrat explicite de silence, le pacte de silence qui est noué avec l'agresseur. Et alors là, on mesure que cette parole-là, elle fait pénétrer dans une autre sphère, dans une autre zone, qui est une zone de tous les dangers. On sait bien, lorsque l'on observe les féminicides, que c'est au moment où les femmes partent et au moment où elles dénoncent qu'elles sont le plus vulnérables et qu'elles sont en danger. Et c'est pour faire écho à ce que disait Muriel, cette parole-là, elle est tellement vertigineuse. Moi, je suis absolument sidérée par le courage de ces femmes qu'elle nous rend éminemment comptables. Qu'allons-nous en faire ? De quoi, qu'est-ce que nous allons offrir à ces femmes et à ces enfants qui ont ce courage inouï de se défaire de l'emprise de leur agresseur ? Eh bien, je crois que c'est vraiment tout le sujet, mais moi, je crois que, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on parle ? Parce que sinon, on meurt. Et que c'est une question de vie ou de mort, parler est un premier pas pour reprendre possession de sa vie.
Je vous vois approuver, Muriel Salmona.
Oui, tout à fait. Et puis ça permet vraiment de pouvoir réellement commencer à s'opposer effectivement à tout ce qui a été imposé. Ça permet de nommer ce qui s'est passé et c'est la porte ouverte à pouvoir commencer à se réapproprier effectivement son corps, sa vie, ce qui s'est passé. Mais encore faut-il, et ça va être un élément absolument essentiel, que cette parole elle soit non seulement écoutée, mais qu'elle soit aussi soutenue et qu'elle puisse être aussi décryptée. Parce que on va le voir là tout au long de cette émission, l'impact traumatique, la stratégie de l'agresseur, l'impact traumatique qu'il crée chez la victime va entraîner de nombreux symptômes qui vont entraver la compréhension de ce qui s'est passé, entraver la parole, qui vont coloniser la victime et l'empêcher d'identifier ce qui s'est passé. Les victimes souvent se retrouvent avec une culpabilité, une honte, des doutes pas possibles qui sont créés par cette colonisation, par la stratégie de l'agresseur. Et donc quand elles parlent, si on ne soutient pas pour remettre à l'endroit, pour vraiment contrer tout ce qui a été mis en place comme stratégie par l'agresseur pour complètement falsifier les choses, mystifier les choses, reconstruire une toute autre réalité mensongère, à ce moment-là, cette parole peut se retourner contre les victimes et au contraire continuer à les enfoncer dans un néant, dans quelque chose où elles sont complètement perdues, abandonnées.
Ce que vous dites, Muriel Salmona, est valable pour une parole privée, comme celle qu'on a entendue dans l'extrait, puisque la femme parle à son fils, donc dans le cercle familial, comme dans la sphère publique. Je suppose que c'est très différent de parler à sa famille, à son psychiatre, à un policier, à un avocat.
Oui, tout à fait. Alors, les premiers interlocuteurs, le plus souvent, c'est dans le cadre des proches, de la famille, d'amis. Après, ça peut être effectivement la police, si on arrive à porter plainte, ou bien les professionnels du soin, qui sont un des premiers recours pour les victimes. Mais c'est vrai que ce qu'on sait, c'est que cette parole-là peut être totalement bloquée, enfin totalement verrouillée, si ce qui est renvoyé participe à remettre en place le système d'emprise de l'agresseur, remettre en place toute cette propagande mensongère, tous ces stéréotypes, toute cette qu'on appelle la culture du viol où c'est la victime qui est la coupable, c'est elle qui a été responsable de ce qui lui est arrivé.
Et ça, Anne Gouillon, et là, ça arrive dans toutes les sphères pour le coup.
Oui,
à toutes les étapes.
Oui, et c'est là où intervient l'importance du « je te crois » plus que le « je t'écoute ». C'est très important de rendre un caractère performatif à cette parole-là. C'est-à-dire que cette parole, elle doit produire un effet lorsqu'elle est dispensée, parce que alors sinon, c'est le renvoi au néant et c'est le renvoi et c'est le retour à l'agresseur. La première crainte des femmes lorsqu'elles parlent, viscérale, c'est de ne pas être crues. Et c'est tellement profondément intégré qu'elles sont même persuadées que personne ne les croira et donc que c'est vain de parler, parce que de toute manière, on leur a dit, on leur a expliqué à 1000 reprises que personne jamais ne les croira. Et donc cette idée du silence, elle est et de l'illégitimité à parler, elle est si profondément, et c'est là où on mesure quand même tout le brio du système, hein, c'est-à-dire que la parole, elle est non seulement muselée, mais les victimes ont le sentiment que, encore une fois, elles sont réduites à ça et au silence de manière inéluctable. Eh bien, les victimes ont tellement intégré cette idée de ce que personne ne les croirait qu'il est fondamental, d'un point de vue sociétal, de leur renvoyer cette image, cette idée du « je te crois ». Alors, j'entends tout de suite d'un mot, les juristes s'inquiéter de ce que ça devienne l'alpha et l'oméga du procès pénal. C'est-à-dire que si, effectivement, dans la sphère judiciaire, on se contente de dire à une victime « je te crois » et qu'on s'arrête là, c'est la fin du procès, nous sommes bien d'accord. La parole des victimes, une fois qu'elle est entendue et qu'elle est crue, et moi, comme avocate, je n'ai absolument aucune raison de ne pas croire ce que viennent déposer les femmes devant moi, eh bien, cette parole, elle est soumise au contradictoire, soumise à l'enquête, corroborée, infirmée, questionnée, et c'est bien normal, en tout cas dans la sphère judiciaire, parce que c'est de procès dont il s'agit et que le « je te crois » n'a pas vocation à devenir un principe juridique.
Muriel Salmona, est-ce que le fait ou la peur de ne pas être cru est une des raisons pour lesquelles vous-même avez attendu longtemps avant de parler, ou il y en a bien d'autres, parce que c'est un faisceau de raisons?
Alors, il y en a bien d'autres, parce qu'il y a bien entendu la peur de ne pas être cru, surtout que effectivement tout effectivement pèse sur la victime, sur ce registre, que ce soit déjà à commencer par l'agresseur, mais par la société qui est dans le déni, par tous les stéréotypes qui nous entourent. Mais il y a aussi la difficulté à mettre des mots. Enfin, il faut savoir que, par exemple, en ce qui concerne les violences sexuelles, les violences démarrent très tôt, dès l'enfance. C'est très difficile de pouvoir dire les choses, de pouvoir les parler. Il y a le trauma, avec tout ce que ça peut comporter comme peur de réactiver ce trauma, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui fait revivre avec l'identique. Donc il y a des conduites d'évitement qui vont empêcher la parole. Mais il y a aussi des possibilités d'amnésie traumatique avec la dissociation, un mécanisme de survie qui se met en place par l'intermédiaire du cerveau, qui va déconnecter la victime de ses émotions. Et du coup, les événements, ils vont apparaître comme irréels, comme dans le brouillard, comme si c'était pas vraiment produit. Et puis il y a aussi tout ce qui est culpabilité, honte, le fait qu'on ait culpabilisé la victime, c'est ta faute, c'est toi qui l'as voulu. Donc tout ça, ça se met en place. Et on sait que en moyenne, les victimes mettent 10 à 13 ans pour arriver enfin à parler.
Et c'est d'ailleurs pour ça, Muriel Salmona, que vous êtes pour l'imprescriptibilité de ces crimes, parce que vous dites, même si la prescription, et vous avez contribué à augmenter le délai, hein, il est passé à 30 ans pour les crimes sexuels, alors qu'il était à 20, jusqu'à 20 ans en 2018, après la majorité, bien sûr. Mais vous êtes vraiment pour une imprescriptibilité. D'ailleurs, c'est un point de désaccord entre vous.
Oui. Et puis, c'est parce que, d'abord, les conséquences psychotraumatiques sont très importantes. Là, il s'agit de crimes graves qui sont souvent répétés. Il y a le fait que pour les victimes, la difficulté à parler, elle est liée aussi à notre société. Elle est liée au fait que personne ne veut voir cette réalité-là, qu'on ne pose pas des questions systématiques aux victimes, ce qu'on veut maintenant mettre en place, qu'on ne les soigne pas, enfin, elles sont pas accès à des soins qui permettraient de pouvoir parler, que tout, du coup, c'est tout un système qui s'oppose à leur parole. Et quand elles parlent, elles sont seulement 8% à obtenir en fait une action pour les protéger et pour agir. Donc en fait elles sont abandonnées. Et je veux dire c'est d'une injustice totale de ne pas leur permettre de pouvoir parler quand elles peuvent parler. Et on le voit bien avec, par exemple, la commission Bétarame. Je fais partie de la commission Bétarame. À quel point, même 50 ans après, les personnes se mettent à parler parce qu'enfin, elles sont légitimes à le faire parce que d'autres ont parlé. Et que du coup, ça les libère, elles ont moins peur. Il y a les mots sont mis, il y a une légitimité qui est vraiment présente et une sécurisation qui leur permet de parler. Donc on est dépendant dans une société qui ne fonctionne pas au mieux pour protéger les victimes et les prendre en charge. On est dépendant de situations où il y aura d'autres victimes, où il y aura une situation où ça va être possible. Et ça prend un temps très important.
Et pourtant, Anne Bouillon, il y a des personnes qui commencent à parler parce qu'elles savent qu'il y a prescription, paradoxalement. D'ailleurs, vous n'êtes pas pour l'imprescriptibilité.
Oui, et c'est un sujet très délicat et il faut pouvoir dérouler une pensée un peu complexe qui vient soutenir cette position. Moi, je parle de ma place d'avocate. Et donc, voilà, encore une fois, d'où parlons-nous ? Moi, je parle de ma place d'avocate, donc de praticienne du droit. Je vais dans les prétoires tous les jours et je vois comment est-ce que le temps fait son œuvre. Alors, parfois, pour faire émerger une parole, comme une bulle de savon, comme ça, qui remonte à la surface. Et puis, parfois, pour effacer, abraser une mémoire qui n'est plus précise. Mais moi, comme avocate, je suis très attentive à la manière dont les procès se conduisent, dont les preuves sont articulées, dont on peut exercer les droits de la défense. Imaginons que l'on vous dise, eh bien, nous vous accusons d'avoir fait tel acte, mais nous ne savons pas très bien quand et nous ne savons pas très bien où. Eh bien, mais pour autant, vous êtes accusé, vous ne pourriez pas vous défendre, vous voyez. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est... Mais j'essaye d'être délicate dans mes propos parce que je comprends que ça puisse faire aussi violence et que l'idée de la prescription puisse faire violence. Moi, je reçois des victimes qui me disent « Mais moi, je suis victime à vie. Et donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas exercer mes droits pendant toute ma vie alors que je suis victime à vie ?» Vous avez raison, vous êtes victime à vie. Mais nous sommes sur un système où arrive un temps, peut-être que ce n'est plus le temps du procès. Moi, je vois des dossiers dans lesquels il n'y a plus que du sable et de la douleur, en fait. Et que les choses sont tellement évanescentes que, eh bien, on arrive devant des juridictions, on ne sait plus si c'était dans la cave ou dans le grenier, on ne sait plus si c'était le printemps ou bien l'été. Et quand on est accusé de quelque chose du côté des droits de la défense, on doit pouvoir se défendre correctement face à une accusation précise. Donc, voilà, de ma place d'avocate, je viens tempérer cette idée d'imprescriptibilité, mais juste un mot sur l'écoute. Parce que, autant il est difficile de dire Et Muriel a raison. Moi, je reçois des femmes qui ne savent plus dire, qui disent mal, qui se mettent en colère, qui pleurent, qui sont mutiques, qui parfois ne parlent pas notre langue. Et c'est très difficile de pouvoir dire, mais c'est très difficile aussi de pouvoir entendre. Et c'est très difficile de pouvoir écouter. Vous parlez de la libération de la parole. Moi, je parle de la libération de l'écoute et de la de comment est-ce qu'on apprend à écouter. Moi, il m'a fallu 25 ans pour apprendre à écouter. Je crois que c'est un travail qui est toujours à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que je mets ça toujours à l'ouvrage parce que là, Kerrer, l'exprimerait que vous passiez, elle est super, la victime. Elle s'exprime très bien, elle est très intelligible, elle parle à des gens voilà, qui ne l'entendent pas parce qu'ils ne sont pas formés. Mais on est toutes et tous pétris de nos biais de représentation et on a toutes et tous envie de féminiser, de minorer, de voire de renvoyer à sa propre responsabilité à la victime. Enfin, madame, c'est pas si grave, mais enfin, pensez aux enfants, mais enfin, vous voyez, et écouter les victimes, les entendre vraiment pour ce qu'elles ont à dire. Là aussi, du côté des accompagnants, des accompagnantes et en tout cas du côté des avocats, ça nécessite humilité et travail.
Vous dites d'ailleurs l'une et l'autre que c'est important, voire une condition sine qua non, d'être ou cru ou entendu, voire les deux. C'est-à-dire l'importance de l'écoute. Est-ce que malgré tout, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas de la psychiatre comme dans le cas de l'avocate, vous avez eu affaire parfois à des personnes qui ont regretté d'avoir parlé ? Est-ce que vous êtes face parfois à des... Je pense même à Hélène Devinck, parce qu'on n'a pas encore parlé de la parole publique, et c'est important la parole publique. Mais Hélène Devinck, elle dit « Briser le silence m'a valu des torrents d'emmerdes, des amis m'ont tourné le dos, des employeurs ont rompu leur contrat, je me dis parfois que le silence m'allait bien, que ma vie était plus facile. » Je rappelle juste que Hélène Devinck était l'une des premières plaignantes contre Patrick Poivre d'Arvor, accusée par 20 femmes de les avoir violées. Muriel Salmona.
Alors ça arrive tout le temps, enfin, toutes mes patientes à un moment donné regrettent, mais à chaque fois elles reprennent parce que c'est une question de vie ou de mort, qui est d'une justice, et puis aussi c'est pour les autres victimes, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'avoir actionné quelque chose qui va faire changer les choses. Je voulais redire que à quel point ce qui est en jeu, on sait que par exemple il y a au moins 74% de classement sans suite sur des plaintes, faute d'éléments permettant de caractériser les faits. Donc, quand on nous dit 50 ans après, ce ne sera pas possible, mais déjà un mois après, 2 ans après, 10 ans après, c'est déjà le cas, c'est déjà ce qu'on dit aux victimes. Le problème, c'est d'adapter à la spécificité de ces situations de violence qui génèrent des traumas très importants, d'adapter les procédures, d'adapter aussi tout ce qui est recherche de preuves médico-légales, et que là, la reconnaissance du psychotraumatisme, le travail sur la mémoire traumatique peut donner énormément d'éléments et d'outils. On est en train de travailler avec le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix à la CPI et à l'OMS, pour que ça devienne des preuves médico-légales qui permettent de venir soutenir le témoignage de la victime. Et puis, deuxième chose, là, on se retrouve avec quasiment que des procès, avec des victimes qui n'ont pas réellement de prise en charge, qui n'ont pas été soignées depuis le départ, qui n'ont pas reçu de traitement. Donc, qui ont une parole qui est perturbée par le trauma, perturbée par la mémoire traumatique, perturbée par l'état de dissociation, qui déconnecte des émotions, qui donne un discours qui peut être décousu, avec des problèmes de repérage temporaux spatiaux. Mais quand on les traite, tout ça s'améliore. Donc tout ça, on peut le réobtenir. Donc le temps est notre allié, en fait, souvent, le plus souvent.
Anne Bouillon.
Oui, moi, je ne partage pas cette vision des choses. Je l'entends, je ne partage pas cette vision des choses, parce que moi, je pense que les juges ont besoin d'éléments de preuve, et que juger sans preuve, même à supposer qu'un tableau de psychotrauma puisse constituer une preuve, en tout cas, c'est un élément qui vient dans un dossier, mais voilà, moi, encore une fois, je vois à quel point le temps est peut-être un allié, mais surtout délétère sur ces questions-là. Mais ça nous oblige aussi à réfléchir à d'autres formes de justice. Ça nous oblige à réfléchir à d'autres formes de prise en charge. Je veux dire, quand Muriel dit les victimes se sentent abandonnées, alors là, c'est évidemment à nous toutes et tous qu'il nous incombe de de faire preuve d'imagination et d'adresser une réponse qui soit adaptée. Est-ce que les victimes regrettent d'avoir parlé ? Moi, j'ai des situations où je n'arrive pas à faire entendre leur voix. Je vais demander des ordonnances de protection qui existent en France depuis 2010. On rattrape un peu notre retard sur l'Espagne. Et parce que les conditions d'obtention de ces ordonnances de protection devant les juges sont très restrictives, alors il m'arrive d'échouer et de ne pas les obtenir. L'effet boomerang, il est catastrophique. C'est-à-dire que la victime qui sera venue demander protection et qui sera vue déniée est dans un état de vulnérabilité absolue et en miroir, l'auteur se sent d'une impunité folle. Et effectivement, c'est à mesurer et je fais très attention avant de demander des ordonnances de protection, précisément parce que je ne peux pas me permettre de faire courir le risque du rejet et du refus. Ce que j'observe néanmoins, c'est que les femmes qui parlent, les enfants qui parlent, et lorsqu'il y a un accompagnement et une mise à l'abri et une écoute, voire un procès, qui n'est pas un soin, il faut aussi le rappeler, il y a beaucoup d'attentes par rapport à la justice et par rapport à l'audience. Mais hier, je recevais un mail d'une jeune femme qui m'a dit, après l'audience, j'ai dû démissionner, je pouvais plus travailler, j'ai eu une reviviscence de mon état de stress post-traumatique, c'était terrible. Et donc, cultiver cette idée que en dehors du procès il n'y aurait pas de salut et en dehors de l'audience il n'y aurait pas de rémission possible, c'est une fausse idée parce que le procès il peut avoir des effets absolument dévastateurs.
On l'a vu récemment, hein. On l'a vu en plus récemment pour par exemple le procès de Pardieu. Des victimes ont dit à quel point c'était un calvaire.
Et là aussi, c'est intéressant sur la parole.
Le concept de revictimation.
Oui, de victimisation secondaire.
Victimisation secondaire. C'est-à-dire, alors, revivre ça, c'est vraiment très, très dur.
Oui. Mais le procès, l'espace judiciaire est un espace âpre, est un espace violent, est un espace où. On n'a pas toutes et tous la même manière de conduire les débats et de poser des questions et on n'est pas obligé de céder à la misogynie ou à la violence facile pour défendre son client. Je crois que c'est une défense à la papa qui est un peu en
vous
train de...
Vous évoquez l'avocat de...
Je n'évoque personne Gérard en particulier, chacun comprendra.
Je vous le dis, je fais la note de bas de page quand même.
C'est la note de bas de page. Non, moi je vois des avocats qui sont redoutablement efficaces en défense de technicité, de pugnacité sans céder comme ça à cette violence évidente qui consiste à dire vous êtes une menteuse madame ment et ça n'apporte évidemment rien au débat judiciaire. Mais là aussi on voit comment la parole évolue. Moi comme avocate il y a 15 ans de ça, quand je rentrais dans le prétoire, je montais sur un ring. C'est-à-dire que j'avais mes gants de boxe et puis en décrochais deux ou trois, ça me plaisait bien, vous voyez. Et j'avais un adversaire et finalement pourquoi ? Ça pouvait me faire plaisir à moi. J'avais l'impression d'être dans ma fonction, mais pour qui, pourquoi ? Parce que si je me retourne et que je regarde celle qui est derrière moi et que je défends et qui me fait l'honneur de me confier sa défense, c'est pas tout à fait ça qu'elle attend en réalité. Ce qu'elle attend, c'est d'être entendue, d'être connue, d'avoir une reconnaissance de son statut de victime, que le monde soit remis à l'endroit, cette expression que j'aime tant, mais et encore plus de pouvoir être reconnue en commune humanité. Alors moi, maintenant, ce que j'essaye de faire dans le procès, c'est d'amener les auteurs, parce qu'on n'a pas parlé encore de la parole des auteurs, et cette parole-là, elle est éminemment intéressante, c'est d'amener les auteurs, voyez, à faire un pas de côté, à pouvoir... Moi, j'aurais adoré que ce monstre sacré du cinéma français puisse, à l'occasion de son procès, dire « Ok, j'aurais pas dû faire comme ça. Je me rends compte que j'ai abusé de mon pouvoir, je suis désolée, et je comprends que je me suis cru tout permis, peut-être parce que tout m'était permis, et que venir interroger le système, venir interroger notre société tout entière, venir interroger le patriarcat, ça m'intéresse beaucoup. Et s'il avait fait ce choix de défense-là, alors évidemment, il aurait épargné beaucoup de violence aux victimes. Peut-être aurait-il progressé, s'en serait-il, lui, sorti grandi. Les victimes, assurément, parce que ici nous aurions parlé d'humanité.
Muriel Salmona.
Oui, effectivement. Alors, moi, ce que je pense, c'est que on a besoin de justice. Enfin, on ne peut pas vivre dans un monde où des personnes peuvent exercer des violences atroces et ce qui est des crimes, sans que justice soit là. Et pour les victimes aussi, on ne peut pas vivre dans un monde où on sait que l'agresseur circule. Je veux dire, c'est une situation de danger perpétuel. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est que les victimes, elles se sentent en très grand danger. Que elles ont été confrontées à la volonté radicale de l'agresseur de les détruire, à son intentionnalité criminelle. Elles savent ce qu'il est capable de faire et elles ont peur. Et elles ont peur pour elles et pour les autres. On est dans une situation où l'impunité est telle qu'il faut bien agir pour améliorer cette justice. Il faut agir pour améliorer la prise en charge des victimes, leur protection. Et il faut aussi agir pour venir les secourir, les prendre en charge, les soigner et arrêter cette reproduction de violence.
Il est 18h45 sur France Culture. Les rencontres de Pétrarque se poursuivent. Nous interrompons ce soir à la parole libératrice. Dans quel cadre, à quelles conditions, avec nos deux invités? Mais la question qui se pose après avoir étudié les principes et constaté que dans les faits, ça ne se poursuit pas, ça ne se passe pas toujours comme prévu, c'est ce qui a changé ces dernières années. Or, manifestement, beaucoup de choses ont changé. Écoutez.
Quand une personnalité comme Judith Godrèche et d'autres, Judith Godrèche a fait référence à Camille Kouchner, à Clotilde M, j'étais au téléphone tout à l'heure avec Eva Thomas, quand ces personnalités prennent la parole, il faut faire l'effort de se représenter que dans une maison, quelque part, ici, là, comme ce vendredi soir à la cérémonie des Césars, des personnes de tous âges sortent de la solitude extrême. Et c'est en ça que ce dépassement est fondamental et révolutionnaire. Parce que l'expérience de la violence est une expérience qui reste étrangère pour le groupe humain que nous sommes. Et ces témoignages, créent de l'humanité commune.
C'était Édouard Durand, magistrat, ancien co-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il était invité du temps du débat sur France Culture le 6 mars 2024. Alors de fait, depuis 2017, depuis le mouvement MeToo, de plus en plus de personnes dénoncent les agressions dont elles ont été victimes. Quel impact ces prises de parole, souvent publiques, comme l'évoquait d'ailleurs Édouard Durand, ont-elles sur les victimes? Sur vous, soignante et avocate, sur la société, qu'est-ce que vous avez constaté de changement majeur? Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, ces dernières années, Anne Bouillon?
Ah, mais c'est majeur. Enfin, il y a un avant, un après. 2017, pour moi, c'est une date fondatrice, véritablement, qui vient tout bouleverser. Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite arriver, MeToo. J'étais sans doute trop plongée dans mes dossiers, dans mon quotidien pour le voir. C'est Geneviève Fraisse qui, je l'ai assistée à une de ses conférences et qui a dit « plus rien ne sera pareil ». Après, elle avait comme souvent raison. Ce que ça a changé, c'est...
Du point de vue de la parole. Hein.
Alors, du point de vue de la parole, c'est le tout. Dans MeToo, ce qui est important, c'est le tout. C'est le aussi, c'est ce que dit Édouard Durand. C'est que nous nous reconnaissons toutes en ce que vit l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre. Et nous avons ce commun, ce langage commun, qui est celui de l'expérience de la violence. En réalité, je le dis, nous avons toutes fait l'expérience de la violence. Toutes, à un instant donné, peut-être toute une vie, mais nous partageons ça toutes. Nous avons toutes peur du viol. Nous avons toutes peur...
Certaines vous diront non, mais on ne va pas rentrer
eh
dans
bien,
ce débat-là.
Écoutez, je demande
qu'être convaincue. C'est juste pour nuancer le tout.
Alors, si elles n'ont pas peur pour elles, peut-être ont-elles peur pour leur fille, pour leur sœur, pour leur voisine. En tout cas, c'est quand même ce qui nous unit d'avoir fait cette expérience, je le crois, malheureusement. Et donc, du point de vue de la parole, ça a été extrêmement libérateur pour la plupart des femmes. Et moi, en 2025, je ne peux pas m'empêcher de dire et de constater que nous ne nous sommes pas allés au bout du chemin sur la libération de la parole. Celle des enfants, d'abord, voilà, qui reste quand même extrêmement muselée. Et puis, moi, je pense aux femmes silencieuses, toujours silencieuses. Je pense aux femmes en ruralité, je pense aux migrantes, je pense aux femmes aux situations de handicap, je pense aux femmes SDF qui vivent des violences au quotidien gravissimes et qui n'ont pas la possibilité de trouver un étayage et une écoute à leurs paroles. Donc oui, certes, ça a tout changé, y compris dans les prétoires, ça a obligé l'institution judiciaire, ça a mis des policiers au travail encore plus, des magistrats en formation, il y a eu le Grenelle contre les violences en 2019, le pouvoir exécutif s'en est saisi, collectivement nous avons un seuil d'intolérance aux violences qui monte, nous sommes très attentifs aux grands procès qui se déroulent et qui viennent agiter notre société. Tout ça évolue, mais ce qui ne change pas d'abord, c'est la violence. Hein. Le nombre de femmes tuées ne diminue pas, le nombre de femmes violées ne diminue pas, le nombre de femmes qui subissent des violences conjugales, ça ne diminue pas du tout. C'est donc peut-être que quand même, malgré la libération de cette parole, nous ne regardons pas tout à fait au bon endroit. Et puis... il y a encore un travail énorme qui reste à faire. Et moi, je crains que la prophétie, j'ai presque fini, la prophétie de Simone de Beauvoir qui nous disait « il suffira d'une crise et évidemment nous retournerons en arrière », je crains que de faire le constat que cette prophétie est en train de se réaliser, malheureusement.
Muriel Salmona, des avancées concrètes constatées ?
Alors, c'est vrai que ça a été un mouvement énorme, enfin, et qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, légitimé la parole des victimes et qui a généré une solidarité extraordinaire entre victimes et qui a libéré toute une parole autour des violences sexuelles, non pas seulement les victimes, mais de toutes les personnes autour. On en parle tout le temps. C'est-à-dire que c'est omniprésent. On n'est plus dans un déni total où ça n'existe pas. Mais effectivement, c'est pas pour autant que il y a une réponse politique à la hauteur de cette libération de la parole.
Par exemple, il y a encore un déficit de formation.
Il y a un déficit de formation énorme encore, même si on essaye de travailler là-dessus. Les médecins continuent à ne pas être formés au psychotrauma pour être traités, à trouver, avoir un accès aux soins, c'est extrêmement difficile. La justice, n'en parlons pas. La protection de l'enfance, c'est une catastrophe. La protection des victimes dans l'ensemble, c'est une catastrophe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à changer. Mais ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que c'est quand même toujours les victimes qui font bouger les choses. C'est elles qui ont généré ce mouvement, qui ont pris ces risques. C'est elles qui font bouger les montagnes, en quelque sorte. Mais il faut que ça suive. Là, il faut que vraiment tout aille dans leur sens. Et puis qu'on aille vers elles. Je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que disait Anne, moi, je m'occupe beaucoup du handicap, des personnes qui sont aussi, par exemple, non oralisantes, qui peuvent pas parler, des petits, des tout-petits, tout ça. Il faut vraiment développer des possibilités d'aller vers les victimes. Il ne faut pas attendre qu'elles fassent tout le boulot, qu'elles parlent, qu'elles mettent beaucoup de temps. Et dernière chose, les violences, ça entraîne des atteintes psychotraumatiques, neurologiques très importantes. C'est des urgences médico-psychologiques. Les victimes doivent être vues en urgence. Seuls 5% des victimes de violences sexuelles sont vues en urgence. Donc
il vaut mieux parler tôt. C'est ça
la
que vous
marge,
dites.
C'est même pas qu'il vaut mieux parler tôt, c'est qu'il faudrait que les personnes soient informées, qu'il y a des soins, que les soins sont efficaces, que c'est une perte de chance épouvantable de laisser se développer des troubles psychotraumatiques, qu'on peut agir là-dessus, qu'on peut donner donc il faudrait qu'il y ait des informations, il faudrait que tout le monde se bouge et qu'on fasse une offre de soins digne de ce nom, sinon c'est un scandale, enfin c'est une perte de chance épouvantable.
Anne Bouillon, vous n'avez pas l'air complètement d'accord.
Si, je suis complètement d'accord. Il y a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais il y a eu des améliorations considérables. Moi, je dirais que c'est des mouvements féministes qui ont aussi fait progresser les choses de manière extrêmement importante. La pensée féministe, la production féministe, outre les grandes voix que Édouard Durand saluait et qui sont à saluer, il faut que des grandes voix s'élèvent. Mais il y a une autre parole qui émerge. C'est-à-dire qu'à côté de celle-là, de cette parole libérée, il y a une autre parole qui se libère, qui est une parole contestataire, qui est une parole réactionnaire, qui est une parole misogyne. On y faisait allusion un peu sur le plan, le thème de la plaisanterie il y a quelques minutes, mais qui est décomplexée. Et que l'on voit sur les réseaux sociaux, auprès de notre jeunesse et partout émerger de manière extrêmement inquiétante. Moi, j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps dans une grande école parisienne à des professeurs. À la fin de ma conférence sur la notion de consentement, il y a un des profs qui s'est levé et qui m'a dit « Moi, madame, je suis masculiniste ». Et donc, et qui l'a dit devant tout l'amphi, vous voyez. Et donc, ça m'a scié. Je lui ai dit « Bah, c'est formidable, c'est quoi le programme? Je rentre à ma cuisine, qu'est-ce que je fais ?» Mais qui peut dire les choses comme ça et qui vient mettre en contrepoids.
C'est nouveau pour vous, vous avez
oui,
jamais
nouveau,
vécu ça.
C'est nouveau, je ne l'avais pas vécu. Et cette idée de ce que le masculinisme serait le pendant du féminisme est une idée éminemment dangereuse parce que les féministes ne prônent rien d'autre que l'égalité, là où les masculinistes s'articulent autour d'un système de la domination dont on voit bien qu'il ne tient que par la violence.
Sans aller jusqu'au masculinisme, je voudrais quand même vous soumettre à toutes les deux une réserve, celle de la psychanalyste, Caroline Eliashef, qui dit que la parole, elle ne doit pas s'imposer comme un dogme. Je la cite. Après avoir vécu une période où personne ne parlait faute d'être entendu, il ne faudrait pas que par un mouvement de balancier trop fort, on entre dans une phase où tout le monde devrait obligatoirement parler. Ne serait-ce que parce que ce serait culpabilisant pour celles qui ne le font pas ou ne le peuvent pas. Comment vous réagissez à ce type de parole? Muriel Salmona.
Moi, c'est vraiment pas le problème de base. Le problème de base,
C'est d'arriver à parler,
c'est d'arriver à faire en sorte qu'on identifie les personnes qui sont en train de vivre là actuellement des violences, qu'on laisse pas des enfants, c'est un enfant sur cinq qui subit des violences sexuelles. Donc il faut agir. Le problème il est là, c'est là où est l'urgence. Et puis par rapport à cette parole, ce qui est sûr c'est que ça c'est vraiment l'expérience que j'ai avec tous mes patients. C'est qu'aussitôt qu'il y a des paroles à l'endroit, des paroles qui remettent le monde à l'endroit, qui sont justes, qui reconnaissent la gravité des violences, qui reconnaissent tout ce qui est de l'ordre des mécanismes psychotraumatiques, qui ne soient pas justement dans la propagande anti-victimaire, les stéréotypes sexistes, etc., ça leur fait énormément de bien. Et à l'inverse, aussitôt qu'il y a des propagandes mensongères, c'est une catastrophe totale. Donc il faut privilégier aussi ces éléments-là.
Je vais terminer avec une question pour l'ancienne victime que vous avez été de violences sexuelles dans votre enfance et dans votre adolescence, Muriel Salmona. Est-ce que maintenant vous diriez, par exemple, que ça vous a remis debout parce que votre parole a été entendue?
Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon?
Est-ce que ça vous a remis debout?
Je me suis
pas couchée, hein. Mais
Non. Je me suis remise debout toute seule, comme la plupart des victimes, avec qui doivent développer des trésors d'ingéniosité, de courage pour pouvoir se mettre debout. Mais moi, ce que je vois, c'est que je ne veux pas que les autres victimes fassent mon parcours. Enfin, je veux que on vienne au secours des victimes, qu'on leur rende justice, qu'on les soigne, qu'on les prenne en charge, qu'on soit solidaire avec elles, voilà, qu'on les laisse pas vivre ça, et puis que on ne tolère pas toutes ces violences. Voilà, c'est ça qui pourrait vraiment m'apaiser. Sinon, je continue à être dans le combat.
Eh bien, merci à toutes les deux, Anne Bouillon et Muriel Salmona. Et oui, c'est déjà terminé. Il est 18h58. Nous rendons l'antenne à 19h. Ces rencontres de Pétrarque, comme chaque semaine, ont été préparées avec l'aide de Diane Devancet, réalisées par Assia Weber. Un grand merci aux équipes de Radio France, aux équipes du rectorat et aux équipes du festival Occitanie Montpellier. On se retrouve demain pour la dernière et pour parler de ces autres manières de parler, de se parler, de s'écouter. Peut-être d'autres manières qui passent aussi par le langage du corps. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes.